Messieurs, dames, bonsoir. Il est 18h à Niamey, 18h au studio Kalangou et partout au Niger. C'est l'heure du journal en français au micro Diallo Mariama Kenda. Et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. À Tillabéri, la journée ville morte observée hier a permis de repousser à 0h l'interdiction de circuler la nuit à la satisfaction des habitants. Des précisions avec le maire de Tillabéri dans un instant. À Agadez, les enseignants contractuels, majoritairement des femmes en grève, les affectations opérées dans leur rang en est le motif des explications dans ce journal. La partie magazine de cette édition, nous découvrirons le Haut Tongo, un événement célébré par les éleveurs peuls après un pâturage abondant. Bienvenue à tous. L'observation stricte hier de la journée ville morte par la population de Tillabéri fâchée suite à l'interdiction de circuler la nuit. Des négociations ont été entreprises avec l'autorité qui a revu sa copie. La teneur des conclusions avec Mourou Kabore, maire de Tillabéri, au micro de Abdoulaye Mamoudou.
L'accès des véhicules et des motos à la ville est interdit à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. À l'intérieur même de la ville, la circulation des véhicules et des motos est interdite seulement à partir de 0h jusqu'à 6h du matin. La circulation des piétons, elle est interdite de 0h mais jusqu'à 5h du matin. Parce que les imams, les muezzins, c'est dès 5 heures qu'on commence à aller à la mosquée. Voilà les nouvelles mesures. Le reste sans changement, c'est-à-dire que les réunions publiques sont assujetties maintenant à des permissions, à des autorisations. Les palpations, les fouilles, les contrôles d'identité, les perquisitions à domicile, c'est autorisé.
Abdoulaye Amoukou, président régional de la Chambre de concertation des ONG et associations de développement de la région de Tillabéri, se réjouit de ce consensus trouvé. Il est joint ce matin au téléphone par Gungu Maman Dantani.
Dans un premier temps, nous pensons quand même que nous sommes vraiment satisfaits. Je ne dirais pas totalement, parce que là, si franchement les autorités ont consenti cela, ça veut dire qu'ils ont vraiment entendu l'appel effectivement de cette population.
Est-ce que cette nouvelle mesure a été appliquée hier ou elle va commencer aujourd'hui?
Bon, je ne dirais pas que hier, effectivement, ça a été appliqué, mais en tout cas, normalement, ça doit prendre effet à partir d'aujourd'hui. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a aussi eu des accompagnements pour vraiment atteindre cela. Comme vous le savez, il y a aussi des cas d'urgence où quelqu'un peut tomber malade. Comment il faut faire pour l'évacuer? Et ce matin, cette même société civile s'est retrouvée autour, effectivement, du maire de la commune de Tillabéri pour échanger éventuellement par rapport à comment accompagner cela.
Quand on décrète les pouvoirs de crise, les pouvoirs publics peuvent instituer un couvre-feu, l'état de siège ou l'état d'urgence avec comme effet principal celui de la restriction des libertés publiques avec l'accroissement des pouvoirs de l'autorité administrative. Le but est de mettre la légalité ordinaire en vacances pour mettre en lieu et place une légalité exceptionnelle, explique Meina Karté-Boukar, constitutionnaliste nigérien, joint au téléphone par Gungu Maman.
Quand on décrète les pouvoirs de crise, les pouvoirs publics peuvent instituer un couvre-feu. Et dans le couvre-feu, on réduit la liberté d'aller et revenir des gens parce que tout est confiné dans des heures bien déterminées. Et vous avez l'état d'urgence et c'est accompagné trop souvent d'un couvre-feu, mais ça peut aussi ne pas être accompagné d'un couvre-feu. Les événements d'origine naturelle, trop souvent, on institue l'état d'urgence. Vous avez aussi l'état de siège. Bon, l'état de siège, c'est une situation de paroxysme de crise quand un état est assiégé par des forces ennemies. C'est aussi des pouvoirs qui ont un effet principal. C'est la restriction des libertés publiques et c'est l'accroissement des pouvoirs de l'autorité administrative. Le but, c'est de mettre la légalité en vacances, la légalité ordinaire, pour mettre en lieu et place une légalité exceptionnelle. Quand on met le couvre-feu, quand on décrète l'état d'urgence ou l'état de siège, alors il y a certaines règles de forme et de procédure qui ne sont plus respectées. Mais là, il ne faut jamais penser que la légalité de crise, c'est une absence de légalité. Et une fois la crise jugulée, on revient à la légalité ordinaire.
L'élection présidentielle nigériane, c'est demain à 24 heures du scrutin. Les ressortissants de ce pays vivant au Niger déplorent qu'il n'ait pas la possibilité de voter sur le territoire nigérien. Aïe Chief Mike Okuma, président des ressortissants nigériens au Niger.
Nous avons demandé à ce qu'on nous permette de faire le vote dès ici, mais on nous a dit d'attendre un peu, comme il y a des travaux à finir sur la machine à voter. Je pense que ça ne sera pas possible pour ces élections, mais prochainement, nous pourrons faire le vote au Niger. Tout celui qui veut voter cette fois-ci, il faut qu'il aille à Ilela, à Sokoto ou à Kano. Nous souhaitons avoir un président qui va œuvrer pour le développement du pays.
Propos recueillis par Rukayatou Abdourahman. L'accès à l'ambassade du Nigeria pour avoir plus d'informations n'a pas été possible à notre reporter. La CDAO fait don de 5000 tonnes de vivres au Nigeria dans le cadre de la rotation des stocks de sa réserve régionale de sécurité alimentaire, selon un communiqué publié le 15 février par la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette mise à disposition remonte au 31 janvier 2019 à Kano. Tout comme les produits vivriers destinés au gouvernement du Niger, 6528 tonnes au Burkina Faso, 4303 tonnes et 2750 tonnes au Ghana. Les vivres destinés au Nigeria pour la rotation des stocks ont été achetés auprès de petits producteurs de la région de l'Afrique de l'Ouest. Cela permet, précise le communiqué, à l'Afrique de l'Ouest de renforcer sa capacité à gérer les risques et à assurer une sécurité alimentaire. Le redéploiement des enseignants objet d'une grève hier et aujourd'hui, un mouvement déclenché par le Syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP, coordination régionale d'Agadez. Détail avec notre correspondant Moussa Mamane.
Le redéploiement des enseignants contractuels d'Agadez par la direction régionale de l'enseignement primaire à la base d'une grève des contractuels. Ceux-ci ont tenu hier une assemblée générale à Agadez pour dénoncer les conditions dans lesquelles ce redéploiement s'est déroulé. Lawali Garba, secrétaire général des contractuels d'Agadez.
Les membres du bureau qui font des mouvements, il les a affectés, il a décapité le cadre maintenant. Et les femmes mariées, les femmes enceintes, vous voyez, des cas sociaux, on n'en parle même pas. Des femmes qui ne peuvent même pas laisser leurs enfants malades ici. Il les a affectés. Très loin. C'est ça, au lieu de vraiment de revoir le cas. Là-bas où il les a amenés, il n'y a pas de besoin. Nous sommes allés voir le terrain. Tu vas voir 4 enceintes pour 12 élèves. Alors qu'ici, on prend une enceinte qui a 50 élèves. On l'envoie là où il n'y a même pas 8 élèves.
Les responsables de l'enseignement primaire d'Agadez, conscients des difficultés que vit l'école dans la région, demandent aux enseignants de faire les sacrifices. Mariama Inchiroak Abou, directrice régionale adjointe de l'enseignement primaire d'Agadez.
Sur les 3000 contractuels que nous avons 2700 femmes. Et qui dit femme, dit elle doit être mariée, avoir des enfants. Mais c'est elles qui ont accepté d'enseigner. C'est elles que nous avons. Les hommes ne viennent plus s'inscrire au rang des enseignants. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on ne va pas aller rejoindre son poste. Alors qu'en Brousse, il y a des enfants aussi qui ont les mêmes droits que ceux de la ville.
Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloke, qui a été saisi par les enseignants à cet effet, a demandé aux deux parties de trouver un terrain d'entente dans l'intérêt de l'école.
Le président de la République Issoufou Mahamadou a procédé hier à Niamey à la pose de la première pierre du nouvel immeuble du ministère des Finances d'un coût global de 25 milliards de francs CFA. Cet immeuble sera construit sous fonds propres de l'État avec l'expertise de la société turque Souma sur un délai de 16 mois. Le building sera de 16 étages offrant plus de 600 bureaux, une dizaine de salles de réunion, un data center, 3 salles de machines, une salle pilote, une salle d'archivage et une bibliothèque, rapporte l'hebdomadaire Sahel dimanche paru aujourd'hui. 14 cartons de drogue, 32 000 comprimés de tramadol disparus de la cave du tribunal de Gouré, région de Zender, à l'issue d'une enquête ouverte par cette juridiction. Tout était parti de rumeurs selon lesquelles la drogue circulait dans la ville de Gouré et qu'elle provenait du tribunal. L'enquête aurait révélé qu'un employé du service ouvrait la cave et sortait la drogue qu'il revendait ensuite, selon une source proche du dossier qui s'est confiée à notre correspondant. D'après la même source, un ancien employé au parfum n'avait pas avisé la hiérarchie ni consigné dans son procès-verbal de passation, ce qui a conduit à une interpellation. Demain à 8h, top départ à Niamey de la 3e édition du semi-marathon militaire de solidarité sur une distance de 21,5 km dans la capitale. Une compétition organisée dans la sous-région à laquelle participent des athlètes civils et militaires de 14 pays avec la participation d'hommes et femmes selon l'adjudant-chef Moussa Ly, chef de la section du bataillon sport militaire. Le marathon de Niamey regroupera des athlètes du Niger et 5 autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Moussa Ly est au micro de Soumana Amadou.
Pour l'instant, les inscriptions sont en train d'arriver, mais je sais que sûr, on a au moins 15 clubs civils, 4 clubs paramilitaires. Le militaire, c'est les 8 zones de notre pays, plus la CMN, qui veut dire l'ensemble des bureaux et directions militaires qui sont ici à Niamey. Et nous avons aussi la garde présidentielle, nous avons aussi la base aérienne 101 et aussi la base aérienne 102 qui se trouve à Agadez. Sur les 14 pays, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina et le Mali qui sont déjà ici.
Est-ce que parmi vous, il y a aussi des femmes qui participent?
Avant, il n'y avait pas de femmes, mais cette année, on a ouvert ça aussi aux femmes. On a des délégations, par exemple, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, qui ont déjà présenté des femmes. Malheureusement, nous, à notre sein, on n'a pas de femmes. Et on a aussi, dans les clubs civils, des femmes qui vont participer.
Les femmes vont avec les hommes ensemble?
C'est le même circuit. Que ce soit femme ou homme, c'est les 21 km seuls que tu dois courir.
Studio Kalangu.
Suivez les programmes du Studio Kalangu
à Niamey
sur la radio alternative 99.4 MHz, sur la radio Amfani 100 MHz, sur la radio Scout 90.9 MHz, sur la radio Challenge 96.6 MHz.
Studio Kalangu.
La partie magazine de ce journal à présent du 9 au 10 février, c'est un rappel, a été célébré le Wotungo, ou fête annuelle des éleveurs Peula Birningaoré, région de Dosso. Une manifestation organisée dans plusieurs localités du Niger depuis la nuit des temps et qui intervient après une bonne pluviométrie, synonyme de pâturage abondant. Pour en savoir plus sur le Wotungo, notre reporter Soumana Amadou a interrogé Boubacar Mabeidi, écrivain bilingue français foufoulé.
Après une bonne campagne pluviale et la libération des champs, les transhumants descendent du nord avec leurs troupeaux à proximité des habitations et des champs. À cette occasion, ils organisent des réjouissances pour manifester leur joie et tisser des relations d'amitié. Un moment de retrouvailles appelé Hotungo, mais célébré autrement selon Boubacar Hamabedi, fin connaisseur de cette culture peul.
Hotungo, c'est un mot peul qui veut dire retour, retour à la maison. C'est-à-dire, c'est une fête que les éleveurs organisent après le retour de la transhumance. Une fête de réjouissance, c'est une fête de retrouvailles.
Comment ça s'est organisé dans les temps?
Pendant la colonisation, tous les éleveurs ils descendent dans le champ du chef de canton. Pendant une semaine, on fait la fête. Et le dernier jour, on fait le défilé pour voir les meilleurs éleveurs. Les meilleurs éleveurs, ceux qui ont des animaux qui ont un monde en point, qui ont bien fait leur travail pendant la transhumance. Chacun montre que ces animaux sont beaux, que ces animaux sont gras, vraiment qu'il a accompli sa mission.
En dehors du défilé, quelles sont les activités qui sont programmées dans un Hotungo?
D'abord, il y a les activités culturelles. C'est pour tisser des amitiés, c'est des retrouvailles. Les gens peuvent se connaître. C'est une occasion aussi de donner une voix à son ami. Parce que le Habana, vraiment, ça montre l'amitié qui existe entre les deux. Celui qui reçoit et celui qui donne. C'était au moment de célébrer des mariages, de faire des baptêmes. Pendant le temps, les peuples laissent jusqu'au retour pour faire les baptêmes. On peut faire donner le nom et tout, mais les festivités, les cérémonies, ils attendent la semaine du Hotungo pour faire le baptême. Ça, c'est dans le temps. Hein. Et ça permet encore qu'il y ait une bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Et c'était une occasion pour faire le soro durant la semaine.
Maintenant, c'est revenu à une seule journée.
À une seule journée, parce qu'il y a le modernisme. Nous, nous organisons ça pour que ça ne disparaisse pas. C'est une tradition pour que les jeunes sachent qu'il y a eu le Hotungo.
Fin de cette édition, merci d'être en notre compagnie. Je vous souhaite une agréable soirée en compagnie de Mokhtar Amadou que vous retrouverez dans le forum de la presse.